plusieurs questions. Et je crois qu'il faut les voir ensemble. Est-ce que le premier amour, est-ce que le primat de l'amour implique toujours une réciprocité? Que l'ami que je choisis aussi de m'aimer. S'il n'y a pas cette extase mutuelle, y a-t-il quand même un véritable amour? Et qu'est-ce que cela apporte à la croissance de la personne humaine? Ça fait partie du devenir et de la croissance de l'amour. Tout amour, si pur qu'il soit, si intense qu'il soit, n'a pas toujours la réciprocité. La première chose qu'il faut dire, l'amour réclame la liberté. La réciprocité, je ne commande pas à l'autre de m'aimer. L'amour est au-dessus de ça. Je n'ai pas un droit à l'amour de mon prochain. Oui, j'ai le droit, si je suis chrétien, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est le commandement de Dieu. Et ici, on parle d'un choix. Un choix amical qui est toujours libre. Dieu, l'Esprit Saint, peut nous pousser à répondre à l'amour, mais nous le faisons toujours librement. Et vous n'avez pas demandé, est-ce que vraiment tu m'aimes librement ou est-ce que tu m'aimes parce que tu obéis au Saint-Esprit? Je ne suis pas en théologie, je suis ici en philosophie. Donc, le choix de l'ami qui me déclare qu'il m'aime, je déclare que je l'aime librement. Au contraire, je déclare que on pourra voir. Alors, on met un peu du temps, on ne répond pas, on verra. C'est si grand l'amitié. Il faut que la décision soit prise avec beaucoup de sérieux. L'amour, il n'y a rien de plus sérieux que l'amour et il n'y a rien de plus aéré. Donc, l'amour n'aime pas d'être obligé. Et dans l'amour d'amitié, je ne suis pas obligé de répondre. Jamais. Tu m'aimes. Je t'aime, oui, je t'aime. Mais je ne t'aime pas comme si tu es un ami unique. Je t'aime. Je t'aime comme j'aime tout le monde. Là, ce n'est pas suffisant. Il y a la liberté, puisque la liberté naît à partir de l'amour. Ce n'est pas la liberté qui est avant l'amour, l'amour est avant la liberté. C'est grâce à l'amour que je suis libre. Et ça, c'est très important. Et je suis libre dans le choix réciproque. C'est même là où je suis le plus libre. Et ça, c'est très important. Donc, est-ce que le primat de l'amour implique toujours une réciprocité ? Non. La réciprocité a son indépendance pour être aussi un primat. Si c'est le primat de mon côté, ça doit être le primat du côté de mon ami. Si c'est le primat du côté de l'ami, il est donc souverainement libre de répondre à cet amour. Et je veux qu'il soit souverainement libre. Je ne veux pas qu'il soit forcé de répondre. Que l'ami que je choisis, choisit aussi de m'aimer. La liberté existe dans ce choix mutuel. Et non pas une obligation. S'il n'y a pas cette extase mutuelle, y a-t-il quand même un véritable amour, et qu'est-ce que cela apporte à la croissance de la personne humaine? Il peut y avoir un très grand étonnement que quelqu'un dit cette déclaration, et vous ne pouvez pas, sur le moment même, faire la même déclaration. Ça peut arriver. Et donc, vous répondez d'une façon vague, on verra, oui. C'est très, très, très gentil de toi de m'aimer. Du fait que tu m'aimes, je t'aime, mais je reçois cet amour, mais ce n'est pas encore le choix amical. C'est pas la même chose. Bon, quelqu'un vous dit que vous l'aimez, mais vous recevez cet amour. Vous n'allez pas lui dire, oh non, oh, toi m'aimer, dans l'histoire. Non, je reçois cet amour, mais je ne déclare pas encore que je t'ai choisi pour être mon ami. Donc, il peut y avoir là la question qu'on n'est pas en harmonie parfaite au point de vue du temps, au point de vue de la maturité de l'amour. Mais donc, à ce moment-là, on est dans un devenir d'amour. Et on le déclare. Parce que c'est ça qui est loyal. Alors, s'il n'y a pas cette extase mutuelle, y a-t-il quand même un véritable... Il peut y avoir un véritable amour, mais il n'y a pas encore l'amour d'amitié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la réciprocité. Et dans la réciprocité, on aime l'amour. On aime celui qui m'a choisi. Donc tant qu'il ne m'a pas choisi, mon amour vis-à-vis de lui ne peut pas s'épanouir totalement. Il faut le consentement des deux. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de nouveau par la réciprocité. Par la réciprocité, j'aime celui qui m'aime. Et aimer celui qui m'aime me donne une possibilité d'aimer plus profondément dans mon amour. Il n'y a plus l'attente fébrile, il y a quelque chose d'acquis, de paix. Je sais que je pourrais aimer plus, mais du fait qu'il m'aime permet à l'amour de se développer. Alors, à ce moment-là, dans la mesure où il y a réciprocité, il y a amour plus profond, plus intense, plus libre, plus fort. Et quand cette réciprocité n'existe pas, ou quand cette réciprocité est en attente, l'amour d'amitié ne peut pas se réaliser parfaitement. Alors, s'il n'y a pas extase mutuelle, y a-t-il quand même un véritable amour ? Il peut y avoir un véritable amour, mais pas un amour d'amitié. Et qu'est-ce que cela apporte à la croissance de la personne ? Cela apporte à la croissance de la personne humaine le développement d'un amour qui, parce qu'il touche la personne de l'autre, je touche sa personne dans la mesure même où il me choisit. Tant qu'il ne m'a pas choisi, je ne touche pas sa personne. Alors, quand il me choisit comme ami, il y a une possibilité à l'amour d'aimer la personne. Et donc, d'avoir un épanouissement propre à l'amour. Puisque ce sont deux personnes qui s'aiment. Et qui ont conscience de s'aimer. Alors à ce moment-là, il y a un véritable épanouissement de l'amour qui touche la personne. Autrement dit, je n'aime la personne que quand la personne m'aime. Et tant que l'autre n'a pas dit aussi qu'il m'aimait et que j'étais son ami, sa personne me reste fermée. Il y a un secret dans la personne. Il y a toujours un secret. Et ce secret ne peut se révéler que si on est libre d'aimer. Et c'est toute la question du secret. Tout amour réciproque, il y a un secret mutuel qui portait et qui a permis à l'amour de se développer et de se découvrir comme un amour personnel. Alors, se découvrir comme un amour personnel, la personne c'est la substance. Vous tenez, vous touchez quelque chose d'absolu. Quand il n'y a pas cette réciprocité, il y a toujours une attente. Quand il y a un véritable amour de l'un pour l'autre, je t'aime, on attend que l'autre réponde, moi aussi je t'aime. Tant qu'il n'y a pas cette réponse, il y a une attente. Alors, il y a un véritable amour, mais ce véritable amour ne peut pas connaître sa perfection. Il demeure imparfait. L'amour n'est parfait que dans la réciprocité. C'est ça qui est très curieux. Alors, ça montre combien l'amour est à la fois ce qui est le plus fort dans l'amour et ce qui connaît aussi la plus grande vulnérabilité. Quand on aime quelqu'un, on se livre à cette personne. Et on est sans défense. Et c'est pour ça que la trahison est toujours si pénible. Parce qu'on est sans défense. On est... Dès qu'on aime, même sans la réciprocité, on est très vulnérable. L'amour rend très vulnérable. Et cette vulnérabilité est très grande dans l'attente de la réciprocité. Cette vulnérabilité trouve dans l'amour de l'autre un point d'appui, une force. Que avant cette réponse de l'autre, mon amour me rendait plus fragile, plus vulnérable. Et il n'y avait pas encore la réponse de l'autre qui me donne une très grande force. Ça, c'est très important de comprendre cela. Que l'amour ne peut s'épanouir totalement que dans l'amour. Tant qu'il n'y a pas réciprocité, il n'y a donc pas l'objet parfait de l'amour. Il y a une attente. Alors, cette attente, à la fois, elle me manifeste ma fragilité, elle me manifeste aussi mon imperfection. Quand j'aime quelqu'un, j'hésite toujours parce que je ne me sens pas digne de lui. En l'aimant, je comprends sa dignité, sa grandeur. Et je vois davantage ma petitesse. Alors, il y a ce point de vue qui est inscrit dans l'amour et qui fait que, justement, l'attente de la réponse de l'autre me maintient dans une très grande fragilité. Qu'est-ce que cela apporte à la croissance de la personne humaine ? Ça apporte à la croissance de la personne humaine une connaissance beaucoup plus profonde de ce qu'est l'amour. Puisque seul l'amour d'amitié permet de découvrir pleinement ce qu'est l'amour. L'amour ne se dévoile qu'en face de l'amour. Ça va très loin, ça, au point de vue surnaturel. Vous voyez ? Je sais que Dieu m'aime et qu'il m'aime d'un amour infini. Et donc, je veux cette réciprocité avec Dieu. Je veux répondre à son amour. Et pour répondre à son amour, il faut que tout soit donné. chez un soigneur divin. Deuxième question. Pourquoi souffre-t-on quand on aime? Est-ce à cause de l'extase, de cette sortie de soi qui nous rend vulnérables, relatifs à notre ami? Parce que notre ami, notre amour grandissent selon la mesure de l'autre et non pas de nous-mêmes. C'est très juste. Dès qu'on aime, on devient plus vulnérable. C'est-à-dire beaucoup plus capable de souffrir. Parce que notre amour a augmenté nos capacités d'aimer. Et ces capacités d'aimer n'ont leur stabilité que si l'autre répond. Si l'autre ne répond pas, il y a l'inquiétude. Est-ce que vraiment il m'aime? Est-ce que pas beaucoup mieux un tel. Vous voyez les considérations là, multiples alors, qui fait qu'on quitte l'amour et que de fait la jalousie pénètre. Et la jalousie fait que on est toujours trois. Tandis dans l'amour d'amitié, on est que deux. Et le troisième risque de mettre la physionomie ricaneuse du troisième. Tiens, il s'aime. On voit très bien. Et le troisième qui fait dépasser le point de vue de la jalousie exige un plus grand amour. La jalousie est toujours contraire à l'amour d'amitié. Et c'est ce qui vient limiter de l'extérieur l'amour. L'amour d'amitié est au-delà de la jalousie. C'est l'amour d'amitié. La jalousie vient parce qu'on n'est pas entièrement pris. Vous voyez le souci qu'il y a quelquefois dans l'amour d'amitié. Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres ? Cette demande à l'intérieur de l'amour d'amitié est contraire à l'amour d'amitié. Elle est parce qu'on n'est pas assez aimant. Si on était assez aimant, on ne se poserait jamais les questions. Si on se pose la question, c'est qu'il y a cette inquiétude. Et on veut être le premier. Et cela, ce n'est pas l'amour. Ça, il faut être farouche là-dessus. Être premier ou être second, ce n'est plus l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, on aime l'autre et on s'aime mutuellement et on s'aime dans l'amour. Et cela suffit. l'amour est suffisamment fort pour permettre la réalisation de l'amour d'amitié sans se poser la question « Y a-t-il un troisième ?» Y a-t-il un troisième ? C'est une curiosité. Et une curiosité qui risque de faire passer la connaissance avant l'amour. Or, quand on aime, l'amour est premier. Et c'est pour ça que cette curiosité, elle est malsaine. Elle est mauvaise. Il faut faire grande attention. Parce que c'est par là que l'amour d'amitié cache un ver rongeur. Qui fait que l'autre est attentif à tout ce qu'on peut avoir d'amour vis-à-vis ce troisième, qui n'empêche rien du tout d'aimer profondément l'ami, mais qui fait que l'ami qui ne m'aime pas avec autant d'amour se nourrit d'une curiosité qui vient diminuer l'amour. Ça, c'est très cruel et c'est très important. Le ver rongeur de l'amitié, c'est la jalousie. Et la jalousie provient du fait que est-ce que je suis pour toi le meilleur ami ? Alors on a envie de répondre, mais est-ce que tu m'aimes ? Oui ? Alors tu ne te poses pas cette question-là. Tu te poses cette question-là parce que tu ne m'aimes pas. Alors là, il y a une correction qui est très forte et qui est nécessaire si on veut vraiment aimer. Si on veut vraiment aimer, il y a une paix dans l'amour. Parce que on se livre à l'ami. On est sans défense pour l'ami. On est sans défense pour l'ami. Et l'ami, en posant cette question-là, vous voyez, quitte le véritable amour et veut posséder. Et c'est ça qui est la plus grande ennemie de l'amour. Quand on aime, on ne possède pas, on est pauvre. Vouloir posséder l'ami, tu es mon ami et tu es le seul. Donc je veux te posséder. Et c'est quelque chose qui est en dehors de l'amour, ça. Et qui fait, et qui est là pour engendrer la jalousie. Une fois que la jalousie a pénétré, c'est un ver rongeur. Terrible, ça. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, au point de vue de garder cet amour intact, c'est presque toujours par ce ver rongeur de la jalousie que l'amour d'amitié diminue et quelquefois disparaît complètement. Pourquoi souffre-t-on quand on aime? Justement, quand on aime, on se livre à celui qu'on aime. On est tout dépendant de lui. Et on sent si l'ami est tout entier dépendant de son amour. On ressent des quantités de choses qu'on ne ressentait pas avant. Mais on ressent si vraiment l'ami est fidèle à son amour et que la réciprocité permet de mettre cet amour au-dessus de tout. C'est sûr que le devenir dans l'amour d'amitié rend beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable. Troisième question. Vous avez dit que la nature est source de péché. Une source de péché. Mais le péché n'est-il pas contre nature? Alors la nature, la source du péché, est plutôt une décision personnelle contre nature. Au point de vue, alors là, on entre un peu en théologie. Théologie, on parle du péché contre nature, le péché originel. Nous sommes nés dans le péché originel. Et quant à notre nature, c'est toute la nature humaine qui est abîmée par le péché originel. Alors là, c'est une grosse question de théologie. Le péché qui est personnel est devenu naturel. Le seul péché naturel, c'est le péché originel. C'est pour ça qu'on lutte tellement en théologie contre le péché originel. C'est un péché de nature, donc c'est pas un péché. Tout péché vient de volonté. Alors c'est un péché de nature parce que justement nous sommes tous liés fondamentalement par la nature humaine. Et notre nature humaine en ceux qui étaient responsables de la nature humaine, en face de Dieu, ont péché. Et donc, par eux, toute la nature humaine a basculé. Et ça, philosophiquement, je ne peux pas en parler. Du péché de nature, ils sont nés dans le péché. Le psaume 50, hein, on récite de temps en temps. Et ils sont bien obligés de dire, ils sont nés dans le péché, notre nature. Et sur ce péché naturel est né des péchés personnels. c'est pour ça que c'est un moment, il y a eu une bataille entre les théologiens qui était très forte contre le péché naturel, le péché de nature. Et l'Église n'a pas répondu. On a essayé d'être. C'est sûr que c'est quelque chose de particulièrement important. Mais faisons bien la distinction au point de vue philosophique. Je ne peux pas parler du péché de nature. Vous ne pouvez pas parler d'Adam et d'Ève. Adam et Ève, vous en parlez en tant que chrétien. Mais Adam et Ève, au point de vue philosophique, c'est zéro. Vous n'avez aucune expérience avec Ève. Aucune expérience personnelle. Ni avec Adam. C'est très très important et de voir bien les limites. Au point de vue philosophique, vous ne pouvez parler que du péché personnel. Alors, c'est très délicat au point de vue philosophique de parler péché de nature. Donc, au fond, on doit en parler qu'au point de vue théologique, au point de vue philosophique. On doit parler d'une nature abîmée. Qu'est-ce qu'il a abîmé ? Le philosophe ne peut pas le dire. C'est très vrai que j'ai reçu cette nature. Je l'ai reçue. Et j'ai reçu une nature abîmée. Abîmée quant à l'équilibre entre l'âme et le corps. Il y a un déséquilibre entre l'âme et le corps. Et la seule chose visible au point de vue philosophique, c'est ce déséquilibre. D'où provient-il ? Le philosophe ne peut pas le dire. Il ne peut pas parler du péché d'Adam et d'Ève. Il y a un problème qui est extrêmement important pour bien voir ce que je peux, ce que je puis dire au point de vue philosophique et ce que je puis dire au point de vue foi. Alors, vous avez dit que la nature est source de péché. Ça, au point de vue théologique, la nature est source de péché. Je reçois une nature abîmée. Ma nature est abîmée. C'est-à-dire, elle est abîmée dans l'équilibre d'une de l'âme et du corps. Le corps a des propensions véhémentes qui vont contre la nature de l'âme. Et au point de vue philosophique, je dois simplement constater. Donc vous voyez, dire que la nature est source de péché, le péché est volontaire, donc est personnel. Mais le péché personnel a des conséquences sur la nature. Le péché d'Ève est personnel. Le péché d'Adam est personnel. Mais comme Ève et Adam étaient les premiers de la nature humaine, leur péché personnel a des conséquences sur la nature humaine. Et ces conséquences, ces conséquences qu'ils portent dans leur nature. Alors, il fait qu'il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je suis né avec une nature pécheresse. Et c'est par le corps, que le péché et les conséquences du péché se transmettent. L'âme est créée directement par Dieu. Et là, est créée pure. Mais l'âme unie au corps, qui lui est déséquilibré, est contaminée par le corps. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que la nature est source du péché. Mais le péché n'est-il pas contre nature ? Oui, le péché est contre nature. Alors, la source du péché est plutôt la décision personnelle contre la nature. Il faut mettre les deux. Mais là, je dépasse le point de vue philosophique pour regarder ce que c'est que le péché originel. Le péché originel, je ne peux le saisir que au point de vue surnaturel. Au point de vue naturel, je peux seulement saisir que ma nature humaine, elle est un peu déséquilibrée, fortement déséquilibrée, et que ce déséquilibre provient du corps. En ce sens qu'il y a les passions et que ces équilibres touchent profondément mon âme. Enfin, dernière question. Comment pouvez-vous affirmer la nature est bonne? Si nous regardons les enfants jouer dans une cour de récréation, ils ont souvent des comportements violents et agressifs. Ne peut-on pas dire plutôt que la nature n'est ni bonne ni mauvaise, mais qu'elle est indifférente? Du philosophique. Ma nature, je comprends très bien au point de vue philosophique, ma nature est indifférente. Je dois la supporter. Elle charrie un déséquilibre. Elle continue de porter un déséquilibre. Elle est source d'un déséquilibre. Mais elle n'est pas mauvaise. Ma nature n'est pas mauvaise. Mais ma nature, par mon corps, est liée au péché. Ça, c'est sûr. Mais ce lien, je ne peux pas, au plan philosophique, le préciser, je constate qu'il y a un déséquilibre, et un déséquilibre plus ou moins foncier, qui dépend de tout l'atavisme. Nous ne sommes pas égaux dans ce déséquilibre, parce que notre atavisme est différent pour chacun d'entre nous. Et l'atavisme charrie un déséquilibre. Ça, c'est sûr que certains qui naissent dans un certain milieu, qui est un milieu auquel il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal, mais uniquement va comme tu veux, pousse comme tu veux. On ne voit plus le partage entre le bien et le mal. Ça, on touche là un problème philosophique terrible qui, au fond, ne peut être résolu qu'en théologie. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Voir comment Dieu, dans sa miséricorde, a répondu à ce déséquilibre. Il s'en est servi d'une façon telle que il nous permet d'avoir un amour plus grand pour le bien. Et encore une dernière question. Il faut la voir quand même. Dans votre dernier cours, vous nous avez parlé de l'expérience de l'amour d'amitié comme un sommet qualitatif pour l'intelligence. Si dans le jugement amical, il y a l'occasion unique de toucher une fin, est-il aussi vrai que dans cette expérience, on touche aussi soi-même comme fin pour son ami? Pour l'intelligence, n'y a-t-il pas un réalisme nouveau? Quant à son jugement, ceci est. Mais aussi, quant à son jugement, je suis. Et donc, la personne. Pouvez-vous revenir sur cet aspect de l'amitié comme sommet qualitatif de l'intelligence capable de juger? Sûrement. Sommet qualitatif, parce que c'est par l'amour d'amitié que je rencontre le mieux la personne de l'autre. J'ai une connaissance affective de la personne de l'autre et de ma personne. L'ami m'éclaire et j'éclaire l'ami. Donc, dans le choix amical, il y a, au point de vue, connaissance de la finalité qui est unique. Alors, ça rejoint, voyez, ce que saint Thomas dit, qu'il n'y a que par l'amour que je puis atteindre Dieu. Saint Thomas dit ça, hein, il n'y a que par l'amour, la cinquième voie, que je puis atteindre Dieu. Donc, si l'amour d'amitié me permet d'avoir une expérience unique de la personne de l'autre et de ma propre personne, je peux dire que l'amour d'amitié Et donc, pour moi, la meilleure disposition pour découvrir l'existence de Dieu. Alors, je dis bien, la meilleure disposition, c'est là où j'assume saint Augustin et en même temps, je le corrige. L'amour d'amitié ne me donne pas l'expérience de Dieu, mais me dispose. Donc, l'amour d'amitié ne me donne pas une expérience immédiate de Dieu. Non, je demeure au niveau personnel et au niveau fraternel. Dans l'amour d'amitié, mais je suis disposé de la manière la plus profonde à découvrir la présence d'un être premier par la personne. Vous voyez, si la personne et ce qu'il y a de plus parfait comme expérience humaine, découvrir la personne de l'autre et la moine, je peux dire, c'est donc l'expérience de la personne qui me mettra le plus proche de l'existence de l'être premier. Je ne peux découvrir Dieu que par l'amour. Et ça, alors, c'est capital. Je ne peux découvrir Dieu que par l'amour. Alors, je ne dis pas qu'il y a une expérience et donc une découverte directe de l'existence de Dieu par l'amour d'amitié, mais il y a une disposition. Je suis dans la meilleure disposition pour découvrir l'existence de Dieu par l'amour d'amitié.